11h sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et aujourd'hui, chers auditeurs, j'ai le grand plaisir d'avoir trois invités avec moi dans le studio. Bonjour Inès.
Bonjour.
Bonjour Hippolyte.
Bonjour.
Bonjour Jersey.
Bonjour.
Alors, chers auditeurs, vous allez entendre des chroniques, un programme qui a été construit par Inès, Jersey et Hippolyte. Et je crois, Inès, que tu souhaites commencer par nous parler de skate.
Et ouais. Donc du coup, je vais commencer par vous dire que en fait le skate, c'est pour moi, c'est bien plus qu'en fait un sport juste rouler ou des trucs comme ça. C'est vraiment une passion. C'est quelque chose, c'est un style de vie. Aussi, je vais aussi vous parler de quand est-ce que ça a commencé ou ça. Ça a commencé dans les années 50 en Californie par des surfeurs. Parce que quand il n'y avait pas la météo pour surfer, ben, ils auraient voulu avoir le même ressenti sur les vagues, mais sur le goudron et sur des roues, en fait. Du coup, le skate, il a apparu et il s'est bien développé pour faire des tricks, donc des figures. Il y a eu une évolution sur les skateboards, donc... pour pouvoir faire des tricks et ça a été le début en gros du skate street pour qu'on puisse pour qu'on puisse parler de skate game en fait. Ça a été médiatisé parce qu'en fait il y a eu des concours en fait de skate pour faire simple et ça a commencé dans les années 90, enfin ça a été médiatisé dans les années 90. Et puis...
Alors comment toi, tu as découvert le skate? Comment tu as rencontré le skate?
C'était il y a quelques mois. En fait, j'avais déjà entendu parler du skate il y a longtemps. Mais vraiment, ça m'a vraiment marqué il y a quelques mois parce que j'ai un de mes potes proches qui fait du skate. Et... il est super fort, du coup, ça m'a mis vraiment des étoiles dans les yeux. Et j'ai fait, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est du skate. Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai acheté une planche et j'ai commencé à faire du skate.
Mais alors, ça doit être difficile au début, comment on fait? Parce qu'il faut trouver son équilibre, je pense qu'on doit se gameler un peu quand même. Donc
Oui, clairement oui. Mais bon, après, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Mais ouais, enfin, après, c'est surtout un sentiment de liberté, en fait, le skate. On est juste avec sa planche, on se concentre juste sur nous, en fait, et enfin, moi, perso, ça me fait partir loin, loin, loin.
C'est-à-dire que c'est des sensations, même au niveau du corps, des sensations ouais. Physiques, qui sont complètement différentes, par exemple, du vélo?
Oui, clairement, il y a l'adrénaline, par exemple, de juste faire une figure. On a le cœur qui s'emballe, et puis dès qu'on sent que... on va se faire mal, que la planche elle atterrit pas bien et qu'on fait ah oui bon là je vais tomber. Il y a le petit moment où le cœur il s'emballe et puis après on se rattrape par terre mais bon.
Alors juste une question pour les auditeurs qui connaissent pas le skate, c'est quoi un tricks?
Un tricks, en fait c'est une figure, enfin c'est le nom qu'on donne à une figure en fait. En gros au lieu de dire figure on dit tricks. Mais après il y a plein de tricks en fait, il y a ollie, c'est la base. Après il y a pop shovit, shovit. Frontside, enfin, il y en a plein.
Et alors, par exemple, une des figures que tu fais, toi, en ce moment, c'est quoi? Elle ressemble à quoi?
Comment expliquer? un ollie, c'est la base. C'est quand la planche, elle saute, on va dire. Oui, j'essaye de travailler beaucoup mon frontside. C'est en fait faire une sorte de 180 vers la gauche. Sans me tromper. C'est ça.
Qu'est-ce qui est le plus difficile, alors? Quand on se lance dans le skate,
le plus difficile, je pense, c'est commencer à faire les figures. Vraiment, faut. Moi, j'ai encore un peu peur parce que j'ai des potes, ils arrivent à bien faire. Et moi, je les vois, je fais OK, mais moi, je peux pas faire ça tout de suite, en fait. Il faut un petit moment pour ne pas trop avoir peur, quoi.
Puis peut-être au niveau de la musculature aussi, quand même, parce que.
Ouais, c'est vrai que c'est fatigant, ça fait bien les jambes et tout.
Est-ce que tu t'imagines aller en skate en ville? Est-ce que
déjà... Je le fais tout le temps. Tout le temps.
Tu fais quoi comme trajet, par exemple?
L'autre jour, j'avais fait quoi? J'avais fait Je crois que j'avais fait l'heure tranquille jusqu'aux Atlantes en skate.
Mais alors comment ça se passe? Parce que tu prends la piste cyclable ou enfin bah, c'est peut-être un peu bête comme question, mais comment tu...
Bah, en fait, normalement, on n'a pas le droit de skater. Enfin, normalement, on se prend des amendes et tout. Donc voilà. Mais sinon, moi, je skate parfois sur le trottoir ou parfois je descends sur la route. Enfin, ça dépend. Vraiment, ça dépend s'il y a du monde, s'il n'y a pas de monde, tout ça.
Mais il y a pas de... Parce que ça existe, je crois, quand même, des skateparks.
Ah oui, bah, y a plein de skateparks. Mais après, pas pareil de skater en ville et skater en skatepark, quoi. Déjà, il y a. Enfin, je sais pas, juste pour se déplacer, déjà, c'est super bien de faire du skate. Enfin, après, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde. Mais bon, voilà. C'est ça aussi le skate. C'est se faire remarquer, on va dire. Parce que le skate, ça fait du bruit. On est souvent en groupe. Donc, voilà.
Ah, c'est une pratique sociale alors aussi, c'est
Ouais.
pas que du sport, c'est
C'est
de...
vraiment, quand je vous dis, c'est un style de vie, en fait. C'est vraiment. C'est de la communication, en fait. Dès qu'on voit un skater, on va faire. Oh! Il fait du skate, et puis direct, ça va faire un sujet de conversation. Tout de suite, en fait. Et puis, après, ça crée plein, plein de liens vraiment forts.
Est-ce qu'il y a peut-être des valeurs morales qui t'intéressent aussi dans le fait de faire du skate? Est-ce qu'il y a des... Quelque chose de cet ordre-là. Par exemple, toi, dans le sport, on dit il y a l'esprit sportif. Donc,
Ouais.
est-ce que ça, il y a des choses comme ça qui existent dans le skate?
Bah.
L'idée d'entraide, de...
Ouais, bah c'est sûr qu'il y a plein d'entraide, hein. C'est quand on commence le skate, faut surtout pas avoir peur en fait d'aller demander à un autre skater qui nous aide en fait. Parce que le skate, c'est si on va voir un skater plus grand, il va tout de suite nous donner des bons mouvements, il va bien nous aider. Et ouais, c'est ça un peu, c'est une morale. C'est pas vraiment une morale, mais c'est juste de l'entraide quoi.
Alors si jamais il y a des auditeurs qui ont envie de se lancer dans le skate, quel conseil tu leur donnerais?
N'utilisez pas Oxelo.
C'est quoi Oxelo?
C'est une marque de skate qui font. Elle est nulle.
Mais alors pourquoi elle est nulle?
Je sais pas, le pop il est pas bien. Les roulements, on va pas en parler.
Voilà.
Utilisez une autre marque
Ou en tout
qu'Oxelo.
En tout cas, ce que tu dis, c'est que le skate, donc il y a un entraînement physique, il y a aussi quelque chose d'esthétique, il y a une relation aux autres, mais il y a aussi des connaissances techniques. Alors, puisque
Ah
tu me
oui.
dis qu'il faut savoir choisir son matériel aussi.
Oui, bah moi j'ai fait l'erreur d'avoir pris une Oxelo par exemple. Voilà, les roulements, maintenant c'est très compliqué, hein. J'ai dû changer de planche.
Alors, c'est quoi un bon roulement en fait? Parce que imagine quelqu'un qui a jamais, jamais, jamais fait de skate, qui...
Un bon roulement, bah, c'est quand on fait tourner la roue, quoi, et que bah, il dure bien longtemps. On dit, ah, ça c'est un bon roulement en fait.
Inès, je crois que tu as choisi une pause musicale pour nos auditeurs, c'est quoi?
C'est Solanly de Police.
Alors, on va écouter ça dans la Méridienne et on se retrouve tout de suite après. Can't convince myself. The Police, So Lonely sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne. Merci Inès pour cette chronique sur le skate et ce choix musical. Il me semble à présent, Jersey et Hippolyte, que vous souhaitiez nous parler de féminisme. Alors c'est bien de parler de féminisme, mais peut-être Jersey, veux-tu commencer par nous expliquer ce que c'est? C'est quoi le féminisme?
Féministe, c'est une conviction que les femmes d'avoir les mêmes droits que les hommes et que le sexe d'un individu ne doit ni justifier différence de traitement.
Oui, c'est ça en fait. Le féminisme, pour faire simple, c'est l'égalité des sexes en fait. C'est pas la version qu'on a tendance à ressortir dans les médias. Ou...
Donc c'est quelque chose, il y a une définition dans les médias, comme tu disais, et il y a une autre définition. Alors est-ce que tu veux nous en dire plus?
C'est ça. En fait, la définition qu'on a le plus souvent dans les médias, c'est mettre la femme plus en avant que l'homme, justement. Il y a beaucoup de gens pour lesquels le féminisme, c'est pas quelque chose de bien, au final. Donc, c'est juste une égalité, voilà. L'histoire du féminisme, elle commence dans la seconde partie du 19e siècle, donc vers 1850. Il apparaît la première fois sous la plume d'Alexandre Dumas. Puis après, celle d'Aubertine d'Auclair. Donc Alexandre Dumas, c'est la première personne qui a parlé du féminisme, qui a lancé ce mot, entre guillemets. Puis, dès la fin du Moyen-Âge, les auteurs critiquaient la place accordée aux femmes dans la société. C'est arrivé. Enfin, disons qu'il y a eu un essor à ce moment-là.
La Révolution française, ça a été une période dans laquelle les droits des femmes ont été l'objet de nombreux débats. À la convocation des États généraux, les femmes nobles et les religieuses ont été représentées, enfin, peuvent être représentées. Quant aux femmes du peuple, dès l'écriture du cahier de doléances, elles ont réclamé l'amélioration, excusez-moi, de leurs conditions. Et pour cela, elles demandent en priorité le droit à l'éducation. L'une d'entre elles a réclamé aussi « Nous demandons à être éclairées, à posséder des emplois, non pour usurper l'autorité des hommes, mais pour en être plus estimées. »
D'ailleurs, je voulais faire juste une petite précision. Le cahier des doléances, c'est un cahier qui a été créé... juste un petit peu après la Révolution française, quand il n'y avait pas encore de régime instauré, les Français ont eu l'idée de faire ce qu'ils appellent du coup des cahiers de doléances, où les gens pourraient noter ce qui leur plaisait pas, quelles améliorations ils pourraient apporter, et qui serait le plus juste. Et du coup, les femmes en ont profité pour donner de leur voix, en fait, et reprendre un petit peu de pouvoir. Les traditions religieuses ont un rôle non négligeable dans l'inégalité entre les sexes. Ça, on ne peut pas le nier. La marque d'une culture patriarcale est réelle. Il y a des exemples judaïsme, christianisme, islam. Les religions qui parlent surtout de Dieu unique et masculin. Là, déjà, on voit déjà la couleur. Dans les textes fondateurs religieux, on trouve une méfiance envers la femme commune et aussi un accès privilégié, voire exclusif aux professions près du divin, entre guillemets, pour les hommes. Tous les premiers prêtres, c'était des hommes. Les femmes n'avaient pas, entre guillemets, leur place. Pourtant, des femmes ont pu accéder à des rôles religieux, alors c'était surtout au Moyen-Âge, des religieuses missionnaires, des supérieures catholiques, qui avaient des réels pouvoirs, et des femmes protestantes engagées aussi, autour de 1900, dans un combat pour l'autonomie des femmes. Et plus près de nous, des théologiennes féministes qui revisitent la Bible, ou tout simplement des croyantes qui restent féministes et qui adaptent leur religion à leurs idées. Elles bousculent les représentations habituelles. Donc par exemple, l'histoire de soumission, elle est très remise en cause. C'est la chose qui revient le plus en cause d'ailleurs. Et témoigne d'une relation nouvelle entre femmes et religion. Et du coup, elles décident de, malgré la religion, rester croyantes. Parce que c'est une religion quand même, c'est des croyances. Ne plus rester dans cet état de soumission.
L'inégalité entre les sexes, c'est vraiment une réalité historique. Ça a été attesté dans l'ensemble des sociétés. Dans la France, au 19e siècle, la cloche des églises sonne le glas moins longtemps pour les femmes que pour les hommes.
Le glas, c'est quand la cloche sonne pour les morts.
Le second récit... de la Genèse, c'est au début de la Bible, elle a été retenue par la tradition juive, puis chrétienne, c'est celui qui m'enseigne la création du premier homme, Adam, puis de la première femme, Ève, ou Adam, je pense que c'est ça, Adam et Ève. Comme aide des compagnons de cet homme, l'interprétation qui en a été faite pendant des siècles a été celle de la soumission de la femme à l'homme. De ce même fait, l'image d'un couple idéal, homme-femme, a pris une place assez importante pour expliquer les actuelles intolérances LGBT.
Oui, du coup, comme elle le disait très bien, dans la Genèse, on parle bien de l'apparition de l'homme, puis de la femme. Il est bien dit dans les textes que la femme est là pour assister l'homme. On voit qu'elle n'a pas la même place. Et après, comme il disait aussi, ça fait une image idéale du couple homme-femme. Il y a beaucoup de choses qui ont été tolérées pendant très 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 longtemps. Par exemple, l'homosexualité, il y a encore plein de pays où c'est pas autorisé du fait de la religion. Alors là, maintenant, on va parler d'une personne très importante du féminisme, hein, Olympe de Gouges, qui s'est d'ailleurs émancipée très vite de toute autorité masculine. Elle est considérée comme l'une des pionnières, excusez-moi, du féminisme français. De son vrai nom, Marie Gouze, elle a consacré toute sa vie au combat pour les droits des femmes. Elle rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, donc en miroir, entre guillemets, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans laquelle elle demande que l'on rende à la femme les droits naturels que les préjugés lui ont retirés, etc. Comme on disait tout à l'heure, avec la religion, avec les croyances, etc. Elle argumente pour que la femme soit considérée comme citoyenne à part entière, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Quand on prend l'exemple de la Rome antique, il n'y avait que les hommes qui étaient citoyens. Et du coup, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Ce soit de posséder les mêmes droits politiques que les hommes n'est cependant pas représentatif des attentes des femmes, et celles-ci ont accepté à ce moment-là l'inégalité. Parce que du coup, elles étaient étouffées, entre guillemets. Enfin, acceptées, bon, c'est pas le bon mot.
Olympe de Gouges, elle s'est pas seulement intéressée à l'égalité civile, elle a aussi demandé la création de maternité pour que les femmes accouchent dans de meilleures conditions, parce qu'avant c'était pas ça, c'était pas comme maintenant. Elle a aussi imaginé un système de protection maternelle et enfantine et a prôné la suppression du mariage religieux en faveur d'un contrat civil de partenariat. À travers ses écrits, elle a aussi soutenu la Révolution française, ce qui lui a valu d'être guillotinée en 1793.
Ce qui s'est passé en 1793, c'est que son grand ennemi, on va dire, entre guillemets, Robespierre, qui était une personne très importante pour la Révolution française, lui, ça lui a pas du tout plu de voir que des femmes reprenaient le pouvoir. Et du coup, il a éliminé pas mal d'opposants. Bon, la guillotine, c'est une radicale, mais très simple. Hein. Et du coup, pour revenir à notre Olympe de Gouges, elle a écrit Les droits de la femme. Alors, les droits de la femme sont des droits théoriques ou réels revendiqués pour les femmes et les jeunes filles dans de nombreuses sociétés à travers le monde. Dans certains pays, ces droits sont soutenus par la loi. Donc, par exemple, pour nous, dans la loi française, il y a des choses qui ont été changées pour soutenir la femme, la coutume locale ou le comportement. Tandis que dans d'autres pays, ils peuvent être ignorés ou supprimés. Bon, là, on ne va pas citer de pays, hein, mais montrant une nette différence de traitement entre les genres, la défense de ces droits est un objectif afin de parvenir à une société censée être égalitaire. Oui, parce qu'on dit égalitaire, mais si les hommes sont laissés derrière, c'est pas égalitaire du tout. Les problématiques principales liées aux droits de la femme incluent entre autres les droits d'autonomie, de ne pas subir de violences sexuelles, morales, psychologiques ou physiques, d'être considérée comme l'égale du mari, parce que avant, comme on disait, l'homme était le père était à la tête de la famille, on va dire. La femme assistait, mais voilà, et du coup. Les droits de la femme, c'est aussi lui redonner sa place dont elle a le droit, en fait. D'avoir accès à des salaires justes et égaux aussi. De maîtriser sa reproduction, ça c'est très important aussi. Et dans d'autres pays, par exemple, nous c'est très intégré, mais dans d'autres pays, par exemple, elles n'ont pas le droit d'avoir une propriété ou d'avoir accès à l'éducation. Après, sur le plan juridique, alors là, c'est en France, je vais préciser en France, hein. Sur le plan juridique, les femmes sont quand même vraiment discriminées. Elles sont passées sous l'autorité du père ou de leur mari par le code civil de Napoléon. Donc, quand Napoléon a passé le code civil et a créé tout ça, les femmes étaient déjà désavantagées. Elles ne peuvent pas détenir de compte d'épargne avant 1881, ne peuvent retirer de l'argent sans autorisation de leur mari avant 1910. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, du coup, ça fait 110 ans, et il fallait attendre l'autorisation du mari, retirer de l'argent. Donc, les femmes n'avaient vraiment aucun droit, elles n'avaient aucun contrôle sur leur vie, tout simplement. L'IVG, donc c'est l'interruption volontaire de grossesse, ne devient légale qu'en 1974. Donc c'est pas vieux non plus, hein. Ça fait juste une cinquantaine d'années. Les Françaises touchent en moyenne un salaire inférieur de 25% à celui des hommes. Donc là c'est un des points les plus frappants, hein. Parce que 25% c'est quand même un quart. Après, en 1991, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne stipulait dans son article 1er que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Donc, il reprend la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, voilà, adaptée pour que les femmes soient égales. Cette déclaration ne fut pas votée. Bon, à ce moment-là, du coup, comme on le disait tout à l'heure, Olympe de Gouges s'est fait guillotiner. Ah oui. Sous Napoléon, du coup, comme je disais tout à l'heure, le droit civil promulgué en 1810 était basé sur le droit romain, qui mettait la femme sous l'autorité du mari, chef de famille. Ce n'est qu'à partir de 1958 que les lois concernant les droits de la femme dans la famille furent une à une changées. Donc ça s'est pas fait tout de suite et ça s'est pas fait en un coup. Au niveau politique, on peut aussi remarquer une importante différence pour la répartition des genres. Et de plus en plus, c'est pas parce que là, c'est surtout parce qu'il n'y a pas autant de femmes qui s'intéressent à la politique que d'hommes. Mais on voit qu'il y a déjà un grand changement par rapport aux années passées. Quand on regarde il y a 20 ans, c'est totalement différent.
On va parler des violences maintenant, qui datent de 2018, par exemple. C'est juste un exemple, ce que j'ai donné. 121 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. 28 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire. 21 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents dans un contexte de violence au sein du couple. Donc, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans, environ, mais maintenant c'est beaucoup moins, qui au cours d'une année sont victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint, est estimée à 213 000 femmes. L'auteur de ces violences est le mari, le concubin, le pacsé, le petit ami, ancien ou actuel, cohabitant ou non. Sept femmes victimes sur 10 déclarent avoir subi des faits répétés. 8 femmes victimes sur 10 déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. Parmi ces femmes victimes, 18% déclarent avoir déposé une plainte en gendarmerie ou en commissariat de police suite à ces violences.
Ces estimations, c'est issu des résultats de l'enquête de l'INSEE. C'est pas des chiffres pris au hasard, hein. Il s'agit déjà d'une estimation minimale, hein, parce que ça interroge que les personnes qui vivent en ménage ordinaire, entre guillemets. Par exemple, les personnes qui vivent en communauté, en collectivité, ou les personnes sans domicile fixe qui sont pas notées. Et les personnes qui sont pas notées non plus, c'est les violences verbales, psychologiques, économiques ou administratives. Parce qu'on dirait pas, mais les violences économiques et administratives, ça touche quand même pas mal de monde. Après, en moyenne, le nombre de femmes âgées de... Voilà. Le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de viols et ou de tentatives est estimé à 94 000 femmes. Dans 91% des cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Ça fait beaucoup quand même. Et dans 47% des cas, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint qui est l'auteur des faits.
Suite au viol ou aux tentatives de viol qu'elles ont subies, seules 12% des victimes ont porté plainte, qu'elles ont ensuite maintenu ou retiré cette plainte. Violences sexuelles, 91% des plaignants constatent une mauvaise prise en charge sur la base de quelques 460 témoignages de femmes. et de quelques hommes qui ont porté plainte ou tenté contre des violences sexuelles. Une association féministe dénonce aujourd'hui la difficulté toujours grande de le faire. Remarques gênantes, sifflements dans la rue, insultes, voire violences physiques. Tous les jours, les femmes, peu importe leur âge ou leur physique, sont confrontées aux harcèlements sexuels. Dans la rue, en France et partout dans le monde, de plus en plus d'entre elles dénoncent ces agressions sexistes quotidiennes.
Oui, on voit que même s'il y a des grands changements qui ont été faits, bon, même s'ils ne sont pas tout récents, rien n'est toujours réglé, ça c'est sûr. Déjà qu'on n'est pas aidé parce que le monde est quand même sacrément façonné par les religions, et si les religions dénigrent entre guillemets la femme, bah, elles sont déjà mal parties. Mais au moins on voit qu'il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des lois... Il y a des lois qui ont été posées. Les mentalités changent aussi. C'est un sujet qui revient de plus en plus. De plus en plus de gens disent des choses justes à ce sujet. Je vais vous donner mon avis tout simplement sur ça. Parce que là, on a fait des recherches. Mais pour moi, du moment qu'on est humain, on doit avoir la même place. Voilà. Qu'on soit une femme, un homme, quelle que soit notre ethnie ou notre religion, on est censé avoir la même place. Vraiment, je comprends pas comment ça a pu se faire dans le temps d'étouffer à ce point la femme. Je sais pas comment ça s'est mis en place. Mais bon, je trouve que c'est vraiment regrettable. Et je dis ça en tant qu'homme. Hein. On a beaucoup de choses à apprendre.
Je sais pas, peut-être que Inès, qu'est-ce que ça t'inspire, cette chronique sur le féminisme? Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, clairement, le féminisme, je suis clairement pour les égalités, pardon. Parce que me dire qu'en fait, en tant que femme, parfois, je me fais rabaisser, ou juste me dire que je suis soumise, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, bah, ça m'énerve, ça met un peu la haine, c'est vrai. Donc j'aimerais juste qu'on soit tous égaux, parce que franchement, vivre dans une société comme ça, bah, c'est pas ouf.
Bah disons que, comme je disais tout à l'heure, les mentalités changent avec le temps. Quand on voit déjà comment le monde était fait il y a 25-30 ans, quand on voit le temps que ça a mis pour que les femmes puissent avoir des vraies lois, ne serait-ce qu'en France, hein. Pourtant la France est un pays développé, on va dire. Je sais pas trop quoi en penser, ça donne pas une super image, mais oui, il y a une nette différence entre nous et les générations d'avant. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on en parle, même quand j'étais au collège il y a quelques années, on avait le même avis que maintenant. Disons que l'avis est de plus en plus répandu qu'il y a une égalité. Après, tout le monde est différent, personne n'a les mêmes croyances. La tendance porte plus à l'égalité de nos jours, les jeunes, de notre âge.
Est-ce que ça vous ferait réagir les uns ou les autres? Je ne sais pas si quelqu'un disait « Ah, bah ça, c'est un métier de fille, par exemple. Là, ça, c'est un métier de garçon. » Je ne sais pas ce que ça vous semble.
Moi, par exemple, pour le skate, on me dit tout le temps « Mais en fait, Inès, t'es lesbienne, tu fais du skate et tout. » Du coup, j'en mode « Ouais, t'es ouf. » C'est... Enfin, j'en ai marre qu'on attribue tout le temps des genres à des métiers ou des activités. Enfin, que ça, c'est pour les hommes, ça, c'est pour les femmes. C'est chiant.
Bah, c'est ça, c'est pas parce que dans les dernières années, il y a plus de personnes d'un sexe qui ont été intéressées par ce métier que forcément, c'est la tendance générale et que c'est un métier. Par exemple, quand on prend l'exemple qui revient le plus souvent, c'est pour la coiffure. Ça c'est celui que j'ai le plus entendu. Il y a plein de gens qui disent ah bah tiens, t'es un garçon, tu veux faire de la coiffure, bah, je sais pas, c'est un métier de femme. Bah non, c'est que dans les dernières années il y a plus de femmes qui ont été intéressées. Mais quand on va dans des écoles de coiffure, je suis sûr que dans chaque classe il y a au moins un ou deux garçons. Et ça change avec le temps. Vraiment, quand on voit le nombre de femmes maintenant qui va à l'armée, le nombre de femmes qui sont dans le sport, qui sont dans la politique, dans des métiers qui étaient, bah, entre guillemets, pour les hommes, hein. Je dis entre guillemets, parce que les vocations ne sont pas Enfin, les métiers ne sont pas genrés. Ça ne devrait pas exister. Tout le monde peut faire ce qu'il veut.
Donc ça veut dire que finalement, cette idée de, pour rester sur cet exemple, de métier pour des hommes, de métier pour des femmes, c'est une atteinte à, vous pensez que c'est une atteinte à vos choix, en fait? Ça vous empêche de choisir ce que vous voulez? C'est une atteinte à vos libertés?
Bah oui.
Bah oui, clairement.
Oui, parce que déjà, c'est une atteinte à nos choix. Et en plus, moi, ça a été une atteinte pour mon orientation sexuelle. Donc, j'étais en mode, bah pourquoi en fait? Pourquoi tu penses ça? Et voilà, j'étais... Après, chacun pense ce qu'il veut, mais pourquoi on pourrait pas avoir une ouverture d'esprit un petit peu plus développée, quoi?
Voilà, donc on peut espérer peut-être que les... Comment dire, que les gens qu'on vous traite, vous avez envie de changer les choses, vous croyez ça? Que votre génération peut changer les choses?
Oui.
Oui, oui.
Moi, j'y crois fortement.
Ah bon, bah, c'est un oui général, en tout cas. <d'accord>, mais... Je crois que vous avez choisi une pause musicale. Jersey, tu as choisi une pause musicale, c'est quoi?
Zoé West, Lose Control.
C'est quoi cette musique? Tu veux nous en dire un mot avant qu'on l'écoute?
Bah, je peux pas décrire exactement cette chanson, mais pour moi, c'est une chanson qui me remonte le moral, on peut dire, mais c'est vraiment... Depuis que je connais cette chanson, ça fait pas si longtemps. Quand je l'écoute, ça me fait du bien et je me mets à chanter, c'est obligé. C'est vraiment une chanson qui, pour moi, compte beaucoup.
Voilà, donc merci de la partager avec nous. On écoute Zoé Wes, ça, Control, dans La Méridienne sur Radio Campus Tour. Early in the morning, I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember, and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, 'cause I can't express so thankful I am that you were always with me when it hurts. I know that you'd understand. I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath. Spinning out in space, pressing up my chest. Sometimes I still think it's coming, but I know it's not. Trying to breathe in and then out, but the air gets caught. Even though I'm old and knowing I know how to shake off the past, I wouldn't have made it if I didn't have you holding my hand. Zoé Wyss, Control sur Radio Campus Tour. Pardon pour mon excellent accent anglais, mais je suis sûre que ça fera rire quelques auditeurs, c'est déjà ça. Alors, grand merci, Jersey, pour ce choix musical. Je crois, Inès, que tu voulais ajouter quelque chose sur le skate.
Ah oui, c'était par rapport à si quelqu'un a peur, en fait, enfin, si quelqu'un veut commencer le skate, plutôt, faut pas avoir peur d'aller voir d'autres skateurs, c'est ça, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on va progresser, et vraiment. On peut aller voir plein de skateurs, leur parler, leur poser des questions. C'est comme ça qu'on va progresser.
Faut pas avoir peur.
Non.
Ah, peut-être que Jersey va se lancer alors.
Il sait peut-être.
En tout cas, je crois que tu voulais, Inès, nous proposer quelque chose.
Oui.
Voilà, tu avais. Voilà, je te laisse nous dire de quoi il s'agit.
En fait, j'ai écrit. Une musique, un texte pour quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Et juste, j'espère que quand elle va écouter, elle va se reconnaître parce que vraiment, je l'aime, je t'aime, ok? Vraiment, je veux que tu le saches, je t'aime de tout mon cœur. Donc, voilà. I can't deserve it, you got me now. I'm not scared, be proud of me. Yeah, yeah. I'm gonna feel so dumb with the mirror in my arm. I try to stay calm. I'm gonna feel so down, yeah. I feel so down, yeah. I hear your bloody energy, babe. That's all you are for me. Yeah, please be mine. I can't stop. Look around when my head doesn't wanna leave me. She got me and I can't be free. Don't be afraid. I'm not that creep, yeah. I'm not that creep, yeah. Who will help me? You're not me, baby. It's the same shit. You need to pray or stay free. You need to pray or stay free. I think I love you.
Bravo Inès pour cette lecture en musique, cette lecture chantée. Donc je me tourne vers mes camarades, Hippolyte et Jersey, voilà. Est-ce que les uns les autres, vous avez peut-être un mot à dire à nos auditeurs pour terminer? Est-ce que vous avez envie de leur conseiller, peut-être pour s'occuper sur les jours d'hiver qui viennent, est-ce que vous avez envie de leur proposer une musique à écouter, un livre à lire, une série ou quelque chose que vous aimez bien?
Il y a un truc que j'ai essayé quelques jours et qui est vraiment pas mal pour passer le temps. C'est l'origami. Ah oui, vraiment, je m'y suis lancé au hasard, j'ai vu, il y avait une sorte de petite boîte avec des papiers dedans et puis un manuel. Puis je m'y suis lancé dedans et puis en 2-3 plis, on peut faire des choses jolies. Alors il faut un petit peu d'entraînement, mais ça occupe et puis c'est vraiment un plaisir. Voilà.
Un peu de patience aussi peut-être.
Oui, un peu de patience, surtout même de la patience, quand il faut recommencer 3 fois la même chose pour avoir un beau résultat. Voilà. Mais le résultat est là.
Qu'est-ce que tu as pu faire, par exemple?
Pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai pu faire une grue, un singe, j'ai fait quoi d'autre aussi? Un papillon de nuit, Bon, lui, par contre, c'était un peu étrange parce que j'ai dû déchirer la feuille pour faire des pattes. Mais...
Ouais, ça, il faisait peur ton papillon de nuit, mec.
Mais non, il était mignon. Et voilà.
Merci, et toi, Jersey, est-ce que t'as...
Ben, je sais pas trop, peut-être. Bon, peut-être avec le Covid-19, sortir, c'est un peu compliqué, mais profiter de sortir, même si parfois il y a le temps, il pleut, mais bon, voilà. Un perso, je m'en fous un petit peu. J'aime beaucoup la pluie. Bon, ça m'a traumatisé pendant un petit moment, mais maintenant, pendant les vacances, sortez avec vos amis, faites tout ce que vous voulez, profitez.
Je suis d'accord, faut pas se laisser freiner par le temps extérieur.
Voilà.
Franchement, y a rien plus de marrant que courir sur la pluie entre potes.
Bah moi j'aimerais bien rajouter quelque chose. Si, enfin, si vous voulez un film que je pourrais conseiller, c'est V pour Vendetta. Vraiment, c'est le plus beau film que j'ai jamais vu de toute ma vie. Vraiment, il est incroyable. Voilà, donc je vous le conseille vraiment fort.
Eh bien, merci à tous les trois, Jersey, Hippolyte et Inès, pour ces chroniques,
Oui.
ces propositions culturelles. Et je pense qu'on va pouvoir se quitter en musique. Je crois, Hippolyte, que tu avais une musique à nous proposer.
C'est ça, c'est Come and Get Your Love.
Et c'est de qui?
Je sais plus qui Red Bull, j'ai plus son nom
Oui, c'est ça. Et
en tête.
alors, merci. Pourquoi tu aimes bien cette chanson? Pourquoi tu as envie de proposer ça à nos auditeurs?
Oh, cette musique, je l'adore. Quand je l'entends, je suis obligé de chanter ou de bouger de la tête. Non, vraiment, c'est une de mes musiques préférées.
Ok, super. Et eh ben merci beaucoup à vous trois d'être venus
Vous
dans
en
cette
prie. De rien,
méridienne.
c'était un plaisir.
Et on se quitte en écoutant cette musique. Bonjour, donc moi je vais vous parler de rencontres littéraires. On va avoir deux temps forts là sur octobre et novembre. Le premier, ça sera le mercredi 21 octobre à 19h avec la rencontre d'un auteur policier qui monte. Il est tout neuf pourtant, il est tout nouveau, ça fait 4 ans seulement qu'il publie, qu'il écrit. Il a changé complètement de vie professionnelle. 4 ans et 4 romans. Et à chaque fois, c'est une très belle découverte. Donc, on reçoit Jérôme Loubry. Je n'ai pas encore dit son nom. Jérôme Loubry qui publie ses livres chez Calman Lévy. Donc, son tout dernier livre, il vient juste de sortir là en septembre. C'est « De soleil et de sang ». Donc, Jérôme Loubry, donc, il a commencé avec « Les chiens de Détroit ». En 2017, qui a été quand même lauréat du prix Plume Libre d'Argent, donc pour un premier roman. L'année suivante, il a publié le 12e chapitre, un polar totalement dingue, angoissant, terrifiant, vraiment très prenant. Et son troisième roman, l'année dernière, c'est 2019, c'était Les Refuges, qui a remporté là, le prix Cognac, qui est quand même un prix prestigieux. Donc, parmi ses influences, il cite James Ailroyd, la série Dexter. C'est un auteur qui accorde énormément d'importance au lieu. On pourra en parler parce qu'à chaque fois, c'est des histoires qui sont vraiment différentes. Dans son premier, donc, c'était la ville de Détroit, une ville qui est maintenant devenue, qui a été le... vraiment le fleuron des États-Unis et maintenant c'est plus qu'une ruine. On a le deuxième, ça se passait sur une plage du côté de Saint-Hilaire-de-Riez. Le troisième, alors là c'est sur une île vraiment très très mystérieuse et là on va à Haïti. Donc de soleil et de sang, le soleil c'est pour le soleil de Haïti et le sang c'est parce que dans le livre on retrouve tout le côté vaudou. Tous ces rites ancestraux qui souvent se construisent dans le sang. C'est un auteur, moi, que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert grâce à une lectrice l'année dernière. C'est le premier roman que j'avais lu, Les Refuges. Alors, c'est pareil, c'était complètement dingue. Alors là, c'est presque un livre qui est impossible à résumer parce qu'en fait, tout ce qu'on lit au début, c'est faux. Enfin, il nous emmène sur... l'histoire, elle rebondit tout le temps. Et c'est un auteur, justement, qui a... vraiment, mais que des bonnes critiques, parce qu'il sait tenir ses romans policiers jusqu'au bout. Et il alterne, il a cette manie d'alterner des époques différentes entre le passé, ce qui se passe actuellement. Il y a un moment où les deux histoires se rejoignent, mais vraiment, dans ces 4 romans, jusqu'au point final, on est un peu perdu. Enfin, on ne sait pas, en fait. C'est vraiment... Donc, un auteur très plaisant. Je peux vous lire éventuellement la quatrième de couverture de Soleil et de Sang, le roman sur lequel on va parler un petit peu de tous ces livres, mais sur lequel on va un peu plus s'attarder. Donc, ça se passe en Haïti, décembre 2009. Deux couples sont retrouvés morts dans un quartier huppé et paisible de Port-au-Prince. Leurs mains, leurs yeux et leur sexe ont été mutilés, leurs corps disposés selon une mise en scène macabre. Un origami en forme de cercueil a été déposé à proximité des cadavres portant la signature de Baron Samedi, le dieu des morts. Donc là, c'est la signature, justement, vaudou. La presse parle aussitôt de rite vaudou, mais Simon Bellage, l'inspecteur en charge de l'enquête, est convaincu que ces crimes ont un mobile beaucoup plus terre-à-terre et ses soupçons sont vite confirmés. Toutes les victimes sont liées à un orphelinat fondé sous la dictature de Papadoc Duvalier, c'est un ancien dictateur, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Haïti, et qui a été fermé donc depuis plus de 20 ans. Pour lui, les seuls coupables sont la corruption, le trafic d'enfants qui mine l'île depuis de nombreuses années. Mais dans ce pays de soleil aux rites ancestraux bâtis dans le sang, ignorer les avertissements des esprits, qu'ils soient vrais ou faux, peut s'avérer dangereux. Voilà, donc une belle rencontre. Donc, Jérôme Loubry et la rencontre, donc, j'ai dit, le mercredi 21 octobre à 19h. Pour la deuxième rencontre, donc là, on sera début novembre, c'est dans le cadre du festival Polar sur Loire. Le vendredi, donc à 19h aussi, on va animer une table ronde
avec les trois auteurs qui organisent le salon, qui sont Nicole Parlange, Béatrice Egemar et Denis Soubiot, donc trois auteurs de romans policiers qui sont des auteurs locaux. Alors le principe justement de Polar sur Loire, c'est d'être un salon qui met en avant les auteurs de romans policiers qui habitent, qui sont nigériens, donc tout le long de la Loire. Ça part grosso modo de Blois jusqu'à Angers. Et on a choisi de faire une table ronde justement où on va parler du festival, parce que c'est un festival qu'ils ont créé eux-mêmes, entre auteurs. Ils refusent d'être subventionnés, ils veulent vraiment rester libres, ils ont un budget très minime, autour de 250 euros. Mais à chaque fois, eh ben, ça marche bien. Dès la première édition, ça a été un succès. Ils ont eu plus de 500 personnes. Ils ont vendu presque 400 ouvrages. Et en fait, c'était vraiment cet esprit convivial qu'ils recherchaient. Et la table ronde, ça va être justement pendant une demi-heure, ils vont nous expliquer pourquoi ils ont créé ce festival, ce qu'ils cherchaient, pourquoi ils veulent être indépendants. Ça va être un peu tout le côté matériel, humain, enfin voilà, on va revenir là-dessus. Et puis en deuxième partie, en fait, on va faire, on va s'attarder plus aux personnages policiers dans le roman policier. Les inspecteurs, les enquêteurs, comment ils le construisent. Donc ils vont nous lire tous les trois des extraits de romans. Et puis, il va y avoir un échange, en fait, sur les personnages. À la fois, moi, je pourrais poser des questions, et puis le public aussi, en fait. Voilà, c'était pour faire un échange. C'est toujours un beau rendez-vous. Donc là, c'est la 5e édition Polar sur Loire, au mois de novembre.
Donc, ce que vous expliquez aussi, Corinne, c'est que les lecteurs ou les lectrices peuvent proposer des ouvrages à la bibliothèque.
Quand un lecteur nous fait une proposition d'achat, on appelle ça comme ça, en général, on les valide toujours. Enfin, on n'est pas les seuls à pouvoir acheter. On est là justement pour servir les administrés. Donc, quand on a moins que d'avoir des fois dans des documentaires des domaines très, très pointus, des recherches très ciblées qui peuvent être plus universitaires ou autres, en général, on satisfait les demandes des lecteurs, surtout sur le point de vue littérature. Ça me fait penser justement à, je rebondis sur Polar sur Loire, ça a été tout l'intérêt pour nous de ce festival, de se rendre compte que dans nos fonds, il nous manquait beaucoup d'auteurs locaux, qui sont souvent des petits auteurs, des fois en auto-édition, qui ont énormément de mal à se faire connaître. Et nous, quand on fait nos offices, enfin, c'est-à-dire que quand on fait nos recherches, on a beaucoup de documentation, on fait beaucoup de veille et on trouve les auteurs dont on parle, parce qu'il y a des articles un peu partout, il y a la télé, enfin, il y a tout un réseau. Mais c'est vrai que ces petits auteurs, on a beaucoup plus de mal, et même eux viennent pas forcément se manifester devant nous. Et ce salon nous a servi quand même à combler des lacunes qu'on avait. Plusieurs aussi de ces auteurs se retrouvaient achetés par le fonds de patrimoine qui est au rez-de-chaussée. Mais on n'a pas la même mission. Le fonds de patrimoine a une mission de conservation. Et il achetait comme ça tout ce qui était maison d'édition locale, enfin tout ce qui était 37, affiché 37. Mais des fois avec des fins de conservation, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir un roman d'un auteur local qui allait se retrouver dans le fonds de conservation. Donc, les lecteurs ne le voyaient pas et ne pouvaient pas l'emprunter. Donc, ça n'avait pas d'intérêt, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a revu, grâce à Polar sur Loire, notre politique d'acquisition de ce côté-là. Mais les demandes de lecteurs, oui, c'est... même nous, ça nous aide à découvrir des auteurs. Et moi, du coup, Jérôme Loubry, je l'ai découvert grâce à une lectrice.
Alors, si d'aventure des auteurs nous entendent, des auteurs locaux, est-ce qu'ils peuvent venir avec leur ouvrage à la main et dire, j'aimerais que mon livre soit de la bibliothèque de Tours?
Alors, oui, alors il y a des auteurs qui parfois nous offrent des. Ça peut être ça, ça peut être on a des auteurs qui nous disent, tenez, je vous l'offre parce que pour avoir plus de visibilité, il a envie qu'on le retrouve à la bibliothèque. Et sinon, oui, il n'y a pas de souci. Un auteur, il peut venir. On peut justement acheter. Moi, Denis Soubieux m'a fait part de la liste des auteurs invités sur les chaque année. En fait, maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et on essaye d'acheter, enfin, de les acheter pour enrichir notre fonds. Alors bon, on fait avec le budget aussi, mais on est en train justement de le développer. Enfin, c'est vraiment notre rôle, nous, ici, à la bibliothèque, de les faire connaître.
Merci Corinne. Alors où est-ce qu'on peut retrouver les dates que vous nous avez annoncées?
Alors, les dates, il y a le programme de la bibliothèque, donc, que vous retrouvez dans toutes les bibliothèques. Il y a évidemment le site internet de la bibliothèque. Et puis, en général, c'est diffusé aussi sur les sites Facebook, site Instagram pour ceux qui suivent. Mais c'est surtout le site internet, donc www.bm, pour bibliothèque municipale-tour.fr.
Merci.
Merci à vous.